Eh bien, c'est l'heure de la chronique Sport Business. On va embrasser des affaires, je vous le dis. On embrassait déjà pendant la pause. On est en train de négocier, Ray et moi, sur la quantité de sujets que nous allions traiter. Bonsoir, mon cher Ray.
Bonsoir, Mario.
Bienvenue à la chronique Sport Business. Merci. À ta chronique, je rappelle aux gens que vous pouvez suivre Ray tous les matins avec Paul Arcand et Alain Crête aux environs de 8h10, 8h15. Sport fois 10 et sur Twitter à @RealAlonde, bien sûr. Et Ray, les dossiers que nous allons aborder ce soir, l'intégrité dans le monde du sport. La poursuite contre Olivier Renard, veut pas, ça rebondit dans le bureau de l'Impact. Entendu la réponse de Kevin Gilmore, qui l'a appris en même temps que tout le monde. Comment le gars est innocent jusqu'à preuve du contraire? Je veux dire, est-ce que ça affecte par ricochet, veut pas, l'image de marque, le branding de l'Impact? Comment tu gères un dossier comme ça?
Je pense que lorsqu'on regarde, Mario, l'ensemble de l'industrie du sport, c'est gigantesque, c'est énorme, tu le sais, là. Puis plus une industrie quelconque est grande, bien plus il y a des opportunités de corruption, de fraude, d'illégalité, tu sais, de déraillement, si on veut. Je parle de l'ensemble de l'industrie. Mais moi, quand je pense à l'industrie du sport, puis j'essaie à chaque jour de convertir les gens à aimer le sport, à consommer le sport, à s'exciter autour du sport en général, autrement que juste le hockey, c'est parce que moi, je vois une industrie de passion, de compétition, de concurrence et de moments magiques qui sont pas prévus à l'avance. Alors, on vit des émotions très fortes dans le sport. Quand on voit des situations, puis celle qui m'embête le plus, c'est toujours les Astros de Houston. Parce que ce dossier-là continue d'évoluer dans le mauvais sens et c'est tout frais devant nos yeux, une équipe qui a utilisé des moyens technologiques illicites pour remporter la Série mondiale. Je suis foudroyé par ça. Mais ça, c'est le gros exemple. Puis parmi les exemples, Mario, juste pour t'en lister quelques-uns, je pense toujours à Ben Johnson aux Jeux olympiques de 88.
Lance Armstrong
qui a gagné le Tour de France 7 fois, puis je l'ai vu gagner de mes yeux 3 fois. Et on lui a enlevé ses titres. Je pense aux Saints de la Nouvelle-Orléans qui payaient leurs joueurs dans la NFL pour frapper et blesser des adversaires. Je pense aux célèbres Patriots de la Nouvelle-Angleterre avec le Spygate en 2007, avec le Deflategate en 2015, puis avec le Videogate en 2019. Ces gars-là n'arrêtent jamais d'aller jusqu'à la limite et même de briser les règlements, Mario.
Match truqué au tennis.
Oui, match truqué au tennis. Puis un arbitre de la NBA, Tim Donaghy, qui, si ma mémoire est bonne, là, c'est autour de 2007, il prenait de l'argent puis des paris pour que lui, comme arbitre officiel lors des matchs, affectait les décisions. Écoute, il s'est retrouvé en prison pour 15 mois, Mario. C'est pas des farces, là. Alors, regarde l'ensemble de l'œuvre, puis il y a d'autres exemples. Il y a toutes sortes d'exemples. Individuels, équipes, organisations, tu sais, le dopage, la corruption à la FIFA. Mm. Non, mais Mario, c'est le dopage olympique avec les Russes. Ça n'arrête pas, là. Et il y a quand même une question à se poser, c'est que les gens s'attendent à de la compétition fair, juste, une certaine droiture et honnêteté, un respect des athlètes et des compétitions, et surtout un respect du partisan, du consommateur, qui, elle ou lui, achète le produit, achète, c'est une façon de parler, mais consomme, passe du temps, de l'énergie, de l'émotion, et se fait un peu dupé, se fait un peu tricher, parce qu'à quelque part, c'était même pas intègre. Donc, on perd de vue l'espèce de responsabilité qu'on a envers la pratique d'un sport.
Là, tu parles de tricherie, puis d'intégrité, c'est important, puis c'est large, ça peut aller loin, l'intégrité. Absolument. Quand on révèle pas la nature de blessure, dans une industrie où il y a des paris sportifs, est-ce que c'est un manque d'intégrité, ça?
Ben oui, Mario.
Weber, genre, c'est
ben un non, manque? Non, mais ça, pas révélé pour être sûr que ça fait... Mais ça fait partie des règlements de la Ligue nationale. T'es pas obligé de dire rien d'autre que bas du corps, haut du corps.
Dans la NFL, c'est différent.
Dans la NFL, ben, c'est probable ou possible. Tu sais, il y a toutes sortes de termes utilisés. Ça, c'est pas un manque d'intégrité. C'est les vraies règles.
Okay.
On peut être plus transparent, là, par exemple.
Okay.
Oui. Mais la NFL ne l'impose pas, puis la NHL non plus.
Et c'est une autre façon de parler d'intégrité. L'intégrité d'Olivier Renard est remise en question. Il est poursuivi au civil par le président de son ancienne organisation. Tu fais quoi, c'était Joey Saputo ou Kevin Gilmore? Kevin Gilmore, bon, va se réfugier en disant, bon, c'est un cas de devant la justice, donc on fera pas de commentaires, mais est-ce que tu envisagerais de le congédier quelques mois après son arrivée?
Mais c'est possible. C'est possible, Mario, parce qu'à quelque part, il faut enquêter, il faut avoir ces rencontres-là, que Kevin Gilmore a dit qu'il a eu. Lui, s'il est satisfait des réponses d'Olivier Renard, ben, j'imagine que ça convient à l'Impact. et à la direction et que leur choix, eux, c'est d'aller de l'avant, c'est correct, c'est leur choix. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Personne n'est là pour leur dire quoi faire. Une chose qui est claire, par exemple, c'est que il y a des organisations qui vont bouger plus rapidement que d'autres. Il y a des organisations qui ne tolèrent rien, zéro tolérance. Il y a des organisations qui sont plus libérales, si on veut, et qui en laissent passer, ou qui patientent un peu trop. Puis, tu sais, c'est tout lié un peu dans l'espèce de façon de gérer ta philosophie et ta culture d'entreprise. Puis, je parle pas de l'impact, là, je parle en général. Tu sais, les Astros de Houston, le jour où s'est sortie l'enquête là, de Rob Manfred, le propriétaire, M. Crane, il a congédié immédiatement sur le champ. Ben, il les a pas congédiés. Le baseball l'a suspendu, puis lui, il les a congédiés le même jour.
Aurais-tu souhaité ça? Dise, on va mettre son statut en suspens, le temps d'enquêter?
Ben, peut-être. Peut-être que c'est une solution, au moins, qui travaille dans l'évolution d'aller chercher la réponse la plus rapide. Mais, tu sais, on a toujours les pressions de gagner, on a toujours les pressions des victoires, on a toujours la pression que la saison commence dans 8 jours. Puis là, on est un peu tout croche, là, dans toute cette histoire-là. Ça prend tout le monde par surprise. Mais, peut-être qu'une pause aurait été une bonne façon de le gérer. Peut-être qu'une suspension, tu sais, sans salaire, aurait été une façon d'aller rapidement au fond de la chose. Mais c'est parce que c'est loin, là, la Belgique d'ici. Mais c'est un dossier très sérieux là-bas. Alors, faut pas le prendre en disant, ben, écoute, on va régler ça en Belgique à l'autre bout, là. Non, non. Écoute, non seulement c'est une distraction, mais c'est un autre nuage noir qui plane au-dessus de la tête de cette équipe-là qui a de la difficulté à sortir.
On avait Piatti, là, ça va être énorme, mais des dossiers complètement
différents.
Je voulais juste ton opinion bien vite sur la décision de l'Impact de Montréal de demander aux journalistes qui vont assister au match préparatoire. On leur donne l'accès, mais parlez pas du match. Comme stratégie marketing, ils ont décidé que c'était un avantage stratégique de faire en sorte que leur adversaire costaricain de la CONCACAF ne connaisse rien de l'équipe qui va les affronter, qu'on demande la complicité des journalistes et qu'on mise sur le fait de gagner le premier match de CONCACAF pour attirer les gens à aller au stade olympique plutôt que de faire comme normalement bien les organisations feraient, d'attirer tout le monde parlez-en, puis...
Ouais. Ouais, ben, Mario,
qu'est-ce que tu penses de ça comme décision?
Ben, encore une fois, l'Impact est roi et maître. L'Impact décide ce qu'ils veulent faire. C'est leur façon de voir les choses. Moi, personnellement, pas d'accord du tout avec ça. Je vais te le dire pourquoi. On est en 2020. On fait partie d'un monde où tout est accessible virtuellement, instantanément. Si tu as besoin d'avoir des vidéoclips de la carrière de coach de Thierry Henry avec Monaco, ben, tu peux trouver ça facilement puis aller savoir c'est quoi ses stratégies sur le terrain. Tu veux savoir de quoi avait l'air l'Impact puis l'effectif l'an dernier. C'est disponible ça aussi puis tu peux avoir accès à tout ça.
Puis il y a peut-être un espion là qu'on connaît pas.
Ben oui, on est en 2020 là. Ben, mais là, de priver les journalistes de faire leur travail.
De leur demander.
Ben, OK.
Et de leur imposer, là, je pense, par le fait même, mais c'est spécial.
Ouais, c'est unique. J'ai jamais vu ça. Pour une équipe qui cherche de l'attention médiatique, qui veut de la couverture, écoute, tu peux bien gagner le match, là, puis ça va te dire, oh, on va avoir plus de partisans, mais si t'en profitais pendant 2 semaines de faire la promotion de ce match-là contre cette équipe de Costa Rica-là, peut-être que tu serais plus avancé ultimement, mais encore une fois, à chacun sa façon de voir les choses.
Si tu perds ton match, t'es pas même plus avancé.
T'es pas plus avancé, Mario, parce que là, soudainement, ils vont dire, ouais,
tu t'es fait mal.
Exactement. Mais je pense, encore une fois, qu'il faut pas, faut arrêter les choses secrètes dans le sport, là, puis penser que les gens doivent être privés, puis les gens vont t'espionner, puis les gens vont te voler des secrets. À la fin, là, des performances de sport, Mario, ça s'exécute sur le terrain de jeu. Sur la glace, sur le terrain de jeu, et ainsi de suite. Il faut quand même... Tu sais, dis-moi pas qu'un Federer contre Nadal, ils savent pas comment l'autre joue, là. Ils se sont affrontés pendant 15-16 ans. Il faut quand même aller le faire sur le terrain de jeu, puis sur le court de tennis. C'est la même chose dans tous les sports.
Juste un mot, puisqu'on est dans nos équipes locales, avant de retourner ces autres dossiers. Les Alouettes, la décision de couper le budget des meneuses de claque, puis quelques jours de rebrousser chemin quelques jours plus tard. Bon, c'est de nouveaux propriétaires, de nouveaux dirigeants. Nous, on n'en a même pas parlé la semaine passée de cette décision-là. Honnêtement, dans notre ordre de priorité des éléments, des sujets sportifs, on n'a pas eu le temps à consacrer au sujet, mais il reste qu'il semble que ça a affecté, ça a touché beaucoup de gens, surtout ceux qui faisaient partie de la troupe et qui reviendront. Mais je veux dire, de rebrousser chemin, qu'est-ce que mauvaise décision au départ, peut-être? Mais ton opinion?
Bien, on s'entend que les Alouettes ont subi d'énormes pertes financières depuis plusieurs années. À un moment donné, il faut que tu commences quelque part pour soit réduire des coûts et à la fois aussi augmenter tes revenus rapidement, Mario. Alors, c'est une combinaison des deux qui va faire en sorte qu'un jour, on l'espère, les Alouettes vont être rentables et vont boucler un budget sans perdre des millions de dollars. Les cheerleaders, c'est une trentaine d'individus C'est important dans l'histoire des Alouettes puis dans le concept d'un match de football au Stade McGill. Mais comme il y a plusieurs équipes de la NFL, qui est la ligue maîtresse dans le monde du football américain sur la planète, qui ont abandonné des cheerleaders pour la simple raison que c'était pas perçu comme étant essentiel, c'est probablement dans cette optique-là que l'équipe a décidé il y a une semaine de dire on n'en a plus besoin. On va sauver un peu d'argent, puis c'est peut-être moins nécessaire qu'avant. Moi, j'ai pas constaté un raz-de-marée, là, réaction négative du public vis-à-vis ça. En tout cas, des gens que je parle, pour moi, ça a passé complètement inaperçu pour la simple raison que c'est pas un grand dossier percutant dans l'industrie du sport. Là, tu vas me dire, ouais, ben il y a des femmes qui sont affectées. Bien sûr, je suis sensible à ça. Mais d'un autre côté, Mario, si tu veux faire des coupes et économiser, il faut voir que tu y ailles à un endroit ou à un autre. Et c'était un endroit pour commencer. Mais c'est minime de toute façon, parce que ce qu'on entendait comme chiffre, c'était 100 000 $ d'économiser. Mais de revenir avec ça, t'es quasiment en train de dire, ben là, t'es pris avec ça pour rester au moins sur cette lignée-là pendant 5 ans, quoi. Parce que ça va être difficile de faire le yo-yo puis changer d'idée à chaque année. Alors, est-ce que c'est bon pour le spectacle? Oui. Est-ce que c'est essentiel? Non. Est-ce que c'est impératif pour les gens qui vont voir du football en 2020? Pas du tout.
On se demande encore une fois au hockey maintenant si les professionnels de la Ligue nationale iront aux prochains Jeux olympiques. Ça nous ramène en arrière. C'est la même rengaine là, à chaque Olympiade. Comment ça va se dénouer cette fois-là, Ray?
Bien, la raison pourquoi je veux te parler de ça, Mario, c'est que mardi dernier, le 4 février, là, il y a eu une rencontre à New York et Gary Bettman et Bill Daly étaient là au nom de la Ligue. René Fassel au nom de la Fédération internationale. Thomas Back pour le CIO. Et aussi l'association des joueurs, dont Donald Fear et Matthew Schneider. Fait que finalement, les parties prenantes qui ont l'influence dans cette décision-là étaient présentes. Ça n'arrive pas souvent qu'on ait une rencontre comme ça. Et surtout que la Fédération internationale de hockey sur glace et le Comité international olympique sont arrivés avec des concessions dans le but d'essayer de trouver une solution pour 2022, les Jeux olympiques qui vont se dérouler en Chine, de façon à ce que les joueurs de la Ligue nationale soient présents. Comme tu le sais, à Pyeongchang en 2018, il n'était pas là. Il n'était pas là, puis les joueurs n'étaient pas très heureux de ça. Parce que l'association des joueurs et les grands joueurs, de Ovechkin pour la Russie jusqu'à Crosby McDavid pour le Canada et Auston Matthews pour les Américains, ils voulaient jouer aux Jeux olympiques.
Mais c'est une faible proportion du nombre de joueurs de l'ensemble de la Ligue.
Bien sûr, mais c'est ça.
Les autres veulent deux semaines de congé?
Ben non, c'est parce qu'à un moment donné, là, tu as une discussion qui a lieu qui est favorable et positive. Ils sortent de cette rencontre-là la semaine dernière, Mario, puis ils disent « Ouais, ben, on a fait une rencontre positive, mais on a encore un bon bout de chemin à faire. » Gary Bettman et Bill Daly insistent sur le fait que l'arrêt de travail pendant 2-3 semaines, là, fermer la Ligue nationale, si tu veux, entre guillemets, et ne pas opérer des matchs de hockey en Amérique du Nord, c'est problématique pour l'industrie du hockey.
C'est
un bon point.
Je suis convaincu que c'est problématique. La NBA n'avait pas ce problème-là. Ils sont allés aux Jeux d'été.
Exact.
Mais leur saison est parallèle à celle du hockey.
Il n'y a aucune interférence, Mario. Tu as raison. Alors, mais est-ce que tu veux conquérir la planète? Parce que la NBA est pas mal plus grosse en termes de business mondial que le hockey. Tu sais, la NBA se joue dans tous les pays. Pas la NBA, mais le basketball. Tandis que le hockey, Mario, c'est pratiqué dans une vingtaine de pays avec un calibre correct, puis une autre vingtaine avec un calibre très moyen. Mais la Chine est à ta portée, Mario. Avec 1,5 milliard de consommateurs, 300 millions de consommateurs de sport et 30 millions de consommateurs pratiquants de jeux et de sports divers. Alors, actifs.
C'est pour ça qu'ils se parlent.
Ben, c'est pour ça qu'ils se parlent, puis c'est normal, parce que tout le monde veut avoir les meilleurs joueurs contre les meilleurs joueurs. Mario, t'es d'accord
ben
avec
oui,
moi?
Ben
là?
Oui, ben oui.
Mais
ça me rend pas malade,
une raison,
pas là non plus. La vie continue, tu sais.
Oui, oui, oui. Non, mais si on parle juste dans leurs assiettes, si on a les pieds dans leurs souliers, là, c'est correct que Bettman dise que c'est problématique d'arrêter la saison puis nos propriétaires s'objectent à ça. Mais d'un autre côté, il faut que tu comprennes que cette fois-ci, le CEO est arrivé en disant « On va y payer vos assurances, on va payer les frais de voyage, on va payer les dépenses. Puis en plus, on va vous donner les droits marketing que vous insistiez à avoir sur les photos puis les vidéos de vos joueurs pendant que vous êtes au jeu. » Ah bon? Parce que la dernière fois, il avait rejeté tout ça.
Mais là, s'il donne ça, Bettman va être attentif. Là.
Mais là, il dit encore, on a encore un bon bout de chemin à faire. Parce que lui, ce qu'il veut, Mario, puis je vais terminer avec ça, lui veut que l'association des joueurs fasse des concessions au niveau de la prochaine négociation de la convention collective. Et que ça soit dans le même barème que la décision olympique. Tandis que l'association des joueurs, ils ont dit, ça n'a aucun rapport, ça. Les Olympiques, c'est une chose. Notre prochaine convention collective qui va se négocier en 2022.
Il s'est essayé la dernière fois aussi.
Oui, puis il essaye encore. C'est pour ça qu'on n'a pas avancé beaucoup. Mais on va en parler dans quelques occasions, Mario, d'ici le mois d'août, parce que la date limite qui a été mise de l'avant par le CIO, c'est le 31 août, je pense.
Ray, un gros merci. Bonne soirée. Je te dis à bientôt. Mario. Bruno Eppel va venir nous parler des dernières acquisitions des Alouettes de Montréal. Jérémy Rainville, il y a un avant-goût de Bonsoir les sportifs ce soir, juste après la pause.